qu'avec Philippe.
Pour le module 2.
Pour le module 2. Donc on va se baser un petit peu sur ce qu'on a raconté comme premiers éléments, première brique sur Azure Key Vault dans le module 1, dans l'introduction. Mm-hmm. Et on va dans ce module 2 essayer de comprendre le fonctionnement général de Azure Key Vault et voir déjà quelques scénarios.
On peut avoir les grands scénarios, quelques instructions clés. On va le faire au travers de PowerShell, mais comme tu le disais, la partie clé fonctionne de la même façon, avec le même type de principe. Je pense qu'on va capitaliser aussi, on a introduit pas mal de choses dans le premier module, donc on va peut-être s'en servir pour vraiment se concentrer sur les éléments clés et pour aborder peut-être rapidement derrière des scénarios concrets de mise en œuvre.
Voilà, et puis on se servira de ce qu'on aura vu dans ce module pour aborder les scénarios détaillés dans les modules suivants.
Exactement.
Donc on va commencer par un certain nombre de scénarios, 4 scénarios que tu nous présentes ici qui ont des particularités chacun.
Voilà, donc on va retrouver un petit peu des choses que l'on avait décrites dans le premier module. On a potentiellement l'exemple, et ça sera notre prochain module d'ailleurs, en termes d'illustration, lorsqu'on déploie des machines virtuelles, typiquement je veux déployer des serveurs web et je veux une connexion TLS, je vais avoir besoin de charger dans cette machine virtuelle un certificat avec sa clé privée. Donc, typiquement, si je suis dans l'environnement Windows, je vais m'appuyer sur un fichier PFX ou un PKCS12, si tu préfères, Pascal, qui sera protégé par un mot de passe. Et du coup, même si j'ai une usine de déploiement, ça veut dire que ce mot de passe, quelque part, doit figurer quelque part pour que l'opération soit réalisée. Et du coup, si on a accès au mot de passe, on a accès à la clé privée, donc du coup, on a plus protégé grand-chose. Donc, ça sera un peu l'objet du prochain module pour voir comment on peut faire. De la même façon, les services Azure, on le mentionnait, j'ai besoin d'accéder, on parlait du stockage des données, j'ai besoin d'accéder à un compte de stockage, j'ai par exemple besoin d'avoir accès à la clé primaire, par exemple. Donc comment je protège ce secret? Même chose pour une connexion à une base de données, c'est les choses que l'on a évoquées. Je dois avoir des clés de chiffrement au travers de mon application. Si par exemple ma machine virtuelle derrière va héberger un SQL Server, par exemple, et que je veux activer le chiffrement transparent de données, ou le chiffrement au niveau colonne, ou le chiffrement au niveau des sauvegardes, là aussi j'ai besoin de clés. Donc quand je suis dans l'environnement SQL Server classique, cette hiérarchie de clés, enfin cette clé va être protégée par une hiérarchie interne au système, mais au travers de la notion de KM, Extensible Key Management, dans SQL Server, on a la possibilité d'avoir un fournisseur externe et dans ce contexte-là d'utiliser une biclé, du chiffrement asymétrique en l'occurrence, au niveau de ce fournisseur externe. Donc la clé utilisée est à l'extérieur et c'était typiquement le scénario tout à l'heure que j'avais à l'esprit quand on mentionnait la possibilité par exemple d'utiliser un HSM en local.
Dans une configuration hybride avec par exemple un VPN site.
Voilà, avec ce que ça veut dire en termes de mise en œuvre et toutes les réserves qu'on peut avoir par rapport à la mise en œuvre ou les commentaires, si ce n'est pas des réserves, en tout cas les commentaires. Et puis l'utilisation, comme on le mentionnait, potentiellement au niveau d'un équivalent par exemple pour SQL Server, pour rester dans le domaine avec directement la version Azure de la chose ou dans des services type Office 365 pour illustrer la notion de solution SaaS.
Donc, comme tu le disais, parmi ces 4 scénarios, seul le troisième semble
en termes de protection, en termes de protection, c'est le seul scénario où, dans les premiers cas, on n'a pas forcément une solution prête à l'emploi. Dans le troisième, on pourrait imaginer quelque chose, mais ça suppose, par exemple, d'avoir, pour l'architecture Windows, installé un CSP ou un KSP, selon que l'on est sur du crypto-API ou du CNG. Et puis pour la dernière, c'est éminemment dépendant de ce qui est fait dans l'application SaaS. Donc là, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, vu d'un point de vue mise en œuvre et possibilité offerte par le coffre de clés Key Vault, c'est typiquement dans ces 4 scénarios Key Vault permet de répondre.
Donc l'idée, effectivement, c'est de répondre à l'ensemble de ces 4 scénarios, comme on le verra par la suite dans les différents modules qui viendront
Le but, c'est de découvrir un par un.
Donc commençons par revoir un petit peu la définition d'Azure Key Vault et quels sont les services de base qu'il permet de fournir.
Donc très simplement, on a parlé de la capacité de créer un coffre de clés. Donc ça, c'est la première
partie. Un coffre de clés, je crois que c'est assez clair, donc ça permet de stocker des clés.
Donc ça va permettre de stocker des clés. Donc les clés, c'est pour réaliser des opérations derrière essentiellement de chiffrement, de déchiffrement, de vérification de signature ou d'opération de signature. Donc c'est pour réaliser ce type d'opération. Et puis, c'est aussi gérer des secrets. Donc finalement, les secrets, c'est tout ce que je peux Donc on n'est pas sur des notions de clés, mais c'est typiquement un mot de passe, une chaîne de connexion. Ce sont des éléments simples que je souhaite protéger et faire en sorte que je ne retrouve pas ça en clair dans des scripts de configuration ou dans des fichiers de configuration d'application, par exemple.
Donc grosse différence entre les deux, le secret et les clés, c'est que le secret, on peut les récupérer.
Ben, l'objectif, enfin, c'est effectivement de pouvoir les relire. Voilà. Donc en fait, c'est de les stocker de façon sécurisée dans un emplacement, notre coffre de clés Azure, mais de pouvoir les relire ensuite. Voilà. Alors que la clé, c'est quelque chose qu'on va charger ou générer au niveau d'un coffre de clés, mais sur lequel on pourra réaliser des opérations en fonction de la politique d'accès qui aura été définie, mais que l'on ne pourra pas récupérer ou lire.
D'accord.
Donc c'est un point qui est…
Grosse distinction entre les deux.
Grosse distinction. Donc d'un point de vue mise en œuvre, donc on évoquait dans le module 1 le fait que l'on repose sur une infrastructure de HSM fournie par notre partenaire Thales. Donc quel que soit le mode de mise en œuvre, on va reposer sur cette infrastructure, alors soit directement, soit de façon ultime, c'est-à-dire que typiquement les clés, on va pouvoir les générer dans un module HSM, on va pouvoir les importer dans un module HSM, on va pouvoir les importer d'un module HSM en local, à condition que ce soit un HSM Thales, vers cette infrastructure, c'est une possibilité, où on peut, de façon logicielle, on va le voir tout de suite après, créer ces clés. Mais dans les deux cas, la terminaison, donc si je suis dans un boîtier HSM, c'est protégé par le boîtier HSM, .barre, il n'y a rien à ajouter. Mais par contre, si je crée des clés de façon logicielle, ces clés logicielles sont protégées par une hiérarchie de clés qui va de toute manière aboutir par des clés qui sont stockées en fait, dans les boîtiers HSM de l'infrastructure réseau sur laquelle on s'appuie.
D'accord. Ces fameux boîtiers HSM qui se trouvent dans les infrastructures Microsoft, donc dans les data centers d'Azure, est-ce qu'ils sont dédiés par client, ceux-là ?
Non. Dans la pratique, ils ne sont pas clients. Alors, ils sont dédiés à des régions, d'une part. Donc, on est bien dans le module 1, j'évoquais la notion de monde de sécurité. Donc, on est sur une infrastructure réseau de boîtiers HSM. On comprend bien la nécessité d'avoir ce type d'infrastructure dans un contexte d'environnement cloud. Ils sont par plaque géographique. Donc, si je veux être présent dans plusieurs plaques, il va falloir que je déploie les mêmes clés typiquement dans plusieurs plaques. Ça, c'est un point. Mais derrière, c'est vraiment un service de type multi-tenant. On est dans un service multi-tenant. La garantie que l'on offre, c'est la certification liée au standard FIPS 140-2 niveau 2. Donc, ce sont les types de garanties ou en termes de cible de sécurité par rapport aux critères communs, le niveau L4 augmenté par rapport aux capacités de ces boîtiers. En fonction de ce qui se trouve derrière ce type d'élément, la non-capacité de pouvoir accéder en fait et relire les clés.
Donc petite parenthèse, le Trust Center sur le site Microsoft, donc trustcenter.microsoft.com, doit fournir l'ensemble des éléments,
ce qui est le cas,
de certification, de conformité.
Voilà, donc tu fais bien de mentionner, parce que bon, on pourrait développer ces éléments, mais le but c'est plutôt au travers de ces modules MVA. En tout cas, c'est l'objectif pour cette série de modules, de montrer plutôt concrètement ce que ça veut dire en termes de mise en œuvre. Mais tu as raison de le souligner, c'est aussi un élément important en termes de pertinence pour s'assurer que tout ce qui suit effectivement rentre par rapport aux exigences de l'organisation en termes de sécurité.
Tout à fait. Donc si on continue à voir un petit peu les éléments de base de Azure Key Vault, qu'est-ce que c'est qu'un secret ? Donc c'est une séquence d'octets, manifestement de taille inférieure à 25 kilo-octets.
Tout à fait.
Donc c'est déjà une taille correcte pour l'usage qu'on en a.
Ça peut permettre de faire pas mal de choses. Ça permet même, comme on va le voir dans le module suivant, de stocker dans une structure JSON un PFX pour pouvoir être ensuite chargé dans les machines.
Oui, tout à fait. Donc les applications et les utilisateurs autorisés pourront lire la valeur de ce secret, voire écrire également, en fonction des autorisations.
Ah, si tu veux la lire, ça suppose déjà de l'avoir écrit.
Effectivement.
tu écris et puis ensuite tu peux relire, ce qui n'est pas du tout le cas. Bon, je pense que c'est vraiment le point important
de la clé
qui ne peut pas, comme c'est décrit ici, être relue. On peut simplement, si la politique d'accès, encore une fois, le permet, en fonction de l'identité et du principal de sécurité qui se présente, réaliser l'opération qui aura été accordée. Mais c'est tout. Et le coffre de clé, c'est effectivement le conteneur de tout ça, c'est l'unité de contrôle d'accès, c'est aussi l'unité de facturation. L'unité de facturation qui dépend d'une mise en œuvre, soit uniquement logicielle, soit une version de plus premium qui va s'appuyer sur directement la notion de boîtier HSM de façon directe, en pouvant créer directement des clés ou importer des clés dans l'infrastructure de HSM.
Donc plus précisément, à l'intérieur de ce coffre de clés, on va trouver tous les éléments dans le modèle des ressources.
C'est une ressource, manager, hein, donc on est vraiment dans l'architecture ARM d'aujourd'hui. Donc c'est une ressource qui existe, donc qui est fournie par un fournisseur de ressources,
voilà,
et qui peut être créée au niveau d'un groupe de ressources.
Exactement.
Donc et au sein de ce groupe de ressources, au même titre qu'un compte de stockage ou qu'une machine virtuelle pour le modèle ARM, est une ressource comme une autre, et dans laquelle on va pouvoir, comme on l'a dit, créer des secrets et des clés. Et puis, qui dit clé, généralement, on a les notions de releveur. Si ces clés sont, par exemple, des certificats, les certificats ont une certaine date, une plage d'utilisation au-delà de laquelle il faut les renouveler. Pour les clés, c'est aussi intéressant de les renouveler aussi par rapport à un certain nombre de considérations qu'on ne développera pas ici. Donc, c'est important d'avoir une notion de version. J'ai un nom de clé, j'ai un nom de secret. Et ensuite, associé, j'ai une... Potentiellement, à la création, j'ai une seule version, mais au fur et à mesure que j'alimente, j'ai différentes versions. Et c'est important de pouvoir avoir accès, le cas échéant, à cet historique, ne serait-ce que pour être en capacité, par exemple, de relire quelque chose qui avait été précédemment chiffré dans une certaine version, par exemple.
D'accord.
Mais une capacité aussi de pouvoir, le cas échéant, désactiver une version donnée, par exemple.
Donc le fait d'avoir les différentes versions pour une clé, ça permet également de ne pas modifier une application, le jour où on va changer la clé, par exemple, on va la remplacer par une nouvelle version parce qu'elle pourra conserver sa même URL en disant
si,
je veux la dernière clé.
Typiquement, si tu es dans un scénario où ce qui va t'intéresser, c'est d'utiliser un certificat, ce qui va t'intéresser, c'est par exemple pour vérifier, pour aller par exemple, faire une opération
de signature,
parce que de vérification de signature, tu auras potentiellement besoin de la version, mais pour une opération de signature, ce qui t'intéresse, c'est de le faire avec un certificat qui soit valide.
Voilà, le dernier.
Donc le dernier. Donc tu ne vas pas t'occuper de la notion de clé. Par contre, par rapport à l'opération, tu peux être intéressé pour sauvegarder la notion de version associée pour pouvoir ensuite la récupérer.
Donc on peut avoir une application indépendante de ce qui va se passer au niveau de la version des clés.
Voilà. Mais le but, c'est de pouvoir offrir, encore une fois, toute la souplesse et s'adapter aux scénarios. Après, selon les scénarios, on peut être intéressé ou pas par la capacité.
Donc pareil au niveau des secrets.
Donc pareil, exactement.
Sur les versions.
Donc ce qu'on peut voir, c'est déjà peut-être, on parlait de ressources, donc peut-être passer
sur ton écran pour
passer
que tu
sur mon écran.
Concrètement, comment ça se passe?
Donc, on mentionnait l'explorateur de ressources. Donc, ici, je suis sur mon abonnement. Si je vais voir au niveau de mes abonnements, au niveau des groupes de ressources, j'en ai quelques-uns. Et par rapport à ce qui a été créé, ici, en termes de fournisseurs, j'ai Microsoft Key Vault. Et dans mes différents coffres-forts, donc comme on l'avait, on peut avoir différents coffres-forts, peut-être... Mmh. Donc j'ai un coffre-fort qui a été créé, donc, ce qui permet de voir par rapport aux capacités de l'explorateur d'avoir un certain nombre d'éléments d'information. Donc on voit qu'on est typiquement dans des API REST avec une information au format JSON qui est rendue. Et on parlait ici, par exemple, des politiques d'accès. On voit... ici que par rapport à un principal de sécurité, les permissions qui sont données sur les clés ou sur les secrets, les deux pouvant être gérés bien évidemment de façon indépendante. Donc j'ai un certain nombre de... Donc avec des capacités qui sont différentes selon les principaux de sécurité, des choses que l'on va revoir en termes d'activation pour le déploiement. Donc typiquement, le fait d'activer un coffre pour le déploiement va permettre, ce qu'on va voir dans le module 3, de pouvoir injecter un certificat, donner les droits en fait au Resource Manager d'Azure, d'injecter en fait un certificat dans une machine virtuelle. Dans le module 4, le Enable for Disk Encryption, pour le chiffrement de disques dans Azure, il faut également aussi donner cette permission. Pareil, si on veut utiliser des template ARM pour réaliser ces opérations automatiquement. Là, ce sont, donc on a d'une façon générale des permissions qui sont données par rapport à des principes de sécurité, et puis on a ce petit jeu de macro-permissions qui sont directement à destination de l'infrastructure Azure.
D'accord.
Alors, ce qui est intéressant dans l'outil, on va le voir tout de suite après. Donc là, j'ai les opérations classiques pour obtenir des données, pour faire des actions en termes de suppression ou de création. Et puis, j'ai la documentation en termes d'accès ou les commandes PowerShell associées. Donc, typiquement, l'outil, ce qui est intéressant, me donne directement une idée des opérations. Qu'est-ce que je fais pour obtenir les informations telles qu'elles étaient présentées sur un coffre de clés, pour modifier des éléments de configuration du coffre de clés, voire le supprimer. Et j'ai exactement la même chose. Donc si on revient sur les données, donc pour être sur...
Là, tu es sur secret, c'est ça ?
Là, je suis. Alors, l'interface ici ne fait pas le distinguo. En fait, là, je suis sur une clé, en l'occurrence, ici.
D'accord,
mais
pas forcément secret et la clé.
Voilà, c'est un petit point à mentionner. Donc, c'est de façon volontaire que
c'est un secret de type clé.
Voilà, c'est un secret type clé. Donc, c'est pas pour embrouiller tout le monde, mais c'est simplement okay. Bon, un petit point qui était à mentionner par rapport à l'application. Donc là, on est sur des secrets, et là, on est plutôt sur des clés, comme le nom le suggère. Mais derrière, on va retrouver également les informations qui vont bien pour avoir un premier niveau d'accès en PowerShell. Donc un petit outil assez sympa pour voir ce que l'on a, découvrir et voir à côté, d'un point de vue programmatique, que ce soit au travers d'appels REST et directement visualiser un peu le format de ce qui est retourné, ou pour réaliser les opérations en PowerShell avec les commandes lettres qui vont bien, comme on va le voir tout de suite après.
OK.
Donc on va peut-être repasser au slide pour avancer.
Slide. Donc on a parlé pas mal de boîtiers HSM et de sécurisation de ces secrets. Donc Philippe, on a deux types de clés qu'on va pouvoir stocker dans
Azure soit T-Vault. De façon logicielle, soit de façon protégée de façon hardware par un boîtier HSM. Donc ça dépend de la configuration du coffre de clé au départ, c'est-à-dire qu'on va le créer
d'accord.
pour être de type logiciel,
ou pour le créer de coffre,
deux coffres, et après, alors les deux, mais ça suppose d'être cohérent. C'est-à-dire que tu crées un coffre de clé de type software ou de type hardware, mm-hmm. et après tu peux stocker ta clé, si le type hardware, le cas échéant, dans le hardware.
Oui. Tout à l'heure, on a bien dit que c'était le coffre lui-même qui était l'unité de facturation. Donc, c'est là qu'on va choisir effectivement le mode premium.
Et tu peux imaginer que tu n'es pas, facturé, et tu peux facturer de la même manière.
Bien sûr.
Donc là, je pense qu'il n'y a pas d'élément nouveau. Donc...
Oui, simplement, on a une différence de certification.
Voilà.
FIPS 140-2 niveau 2.
Ou niveau 1.
Niveau 1 dans le cas logiciel.
Voilà. Donc l'authentification, on l'a évoqué dans le module 1, me semble-t-il. L'authentification, on a besoin de principaux de sécurité. Ces principaux de sécurité, c'est le répertoire Azure Active Directory qui est adossé à l'abonnement Azure qui réalise en fait ces opérations. Donc, ce sont par rapport à des objets qui sont décrits en fait dans ce répertoire Azure Active Directory que peuvent être définies la politique que l'on a vue en termes de politique d'accès. Donc soit un utilisateur, soit un groupe, soit un principal de sécurité. S'il s'agit d'une application, par exemple, qui serait décrite dans Azure AD.
OK, clair. Donc, dans la pratique, maintenant.
Donc là, on se met dans la version monorôle. Alors, je suis le développeur. Donc,
D'accord, donc c'est le développeur qui a tous les rôles. OK, on va se passer dans ce mode simple.
Voilà, puis après, on raffinera au fur et à mesure. Donc,
première chose.
Il faut créer un coffre de clés.
OK, on crée le coffre.
Donc avec une commande. Ensuite, c'est autoriser l'application et les utilisateurs à pouvoir accéder. Donc soit ce sont des objets qui existent déjà dans Azure Active Directory. À ce moment-là, il suffit de taper la commande qui va bien. Donc en l'occurrence, c'est un set Azure RM qui Vault Access Policy avec les informations qui vont bien. Soit si c'est par rapport à une application qu'elle n'existe pas encore, il va falloir décrire en fait cette application dans Azure Active Directory de manière à avoir un principal de service associé. Une fois qu'on a ce principal de service, on va le faire dans le module 3, dans le module 4 plus exactement, c'est à partir de là qu'on va pouvoir autoriser.
Donc ensuite, on va justement importer ou créer les clés qu'on va pouvoir vouloir protéger dans le Key Vault, dans le coffre.
Donc on alimente. Donc voilà. Là, une fois qu'on a réalisé cette opération, on a une URI qui correspond au secret ou à la clé, avec la version ou pas, comme on l'a vu.
Et ensuite, on va configurer notre application avec cette URI,
voilà,
de façon à ce qu'elle consomme cette URI. Soit fasse des opérations, qu'elle fasse des opérations avec ses clés, soit qu'elle récupère le secret.
Pour aller se connecter à un compte de stockage, à une base SQL ou que sais-je.
On a tout compris. Et donc, elle utilise la clé comme on le disait.
Et du coup, si c'est bien configuré, en fonction de l'identité de l'application, de l'utilisateur qui est derrière, en fonction du contexte, ça doit fonctionner.
Donc ça marche pour le cas le plus simple. Ensuite,
C'est reproductible, c'est un schéma que l'on peut décliner pour un ensemble de développeurs ou des équipes de développement.
Voilà. Et puis plus on a de développeurs, plus il va falloir gérer donc ces. Des développeurs et d'applications, plus il va falloir gérer donc ces autorisations.
Chacun gère ça et c'est là que ça peut commencer dans la phase suivante, en tout cas en termes de pré-prod, de pilote et autres, peut-être d'avoir un transfert de responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a le bac à sable pour développer la solution. Et ensuite, c'est peut-être de passer à notre responsable de la sécurité ou à un utilisateur un peu plus privilégié, où c'est lui qui est en charge, comme on l'évoquait dans le premier module, de créer le coffre, autoriser, apporter les clés et les secrets, et de communiquer finalement à l'autre partie, la population des développeurs, les URI à utiliser, et comme on dit, et voilà. Mais ça ne change rien dans le modèle de fonctionnement.
– Donc tant qu'on est en pilote, pré-prod, on peut tout à fait se contenter d'un KeyVault mode logiciel pour ne pas dépenser trop d'argent dès le début. Et puis ensuite, quand on va passer en production, là, on va mettre le niveau de sécurité adéquat.
Exactement.
Et on pourra penser, par exemple, en fonction des besoins, passer en mode HSM.
Donc ça veut dire potentiellement refaire, si c'est à réimporter les clés, les réimporter. Mais ensuite, ça veut dire simplement de nouvelles URI pour la mise en prod. Mais là, encore une fois, on ne change rien fondamentalement. On va simplement changer une URI. Oui. Et puis, si on reste effectivement, si on veut aller plus loin, ça veut dire que dans le temps, il va falloir ces secrets, ces clés, comme on l'évoquait précédemment avec la notion de version, vont évoluer. Donc, ça, c'est une première chose. Et potentiellement, dans ce contexte-là, en fonction de la façon dont sont utilisées ces clés secrets, peut-être fournir les nouvelles URI versionnées ou pas. Et puis, en fonction de la sensibilité de l'application, de ce qui est fait, peut-être le besoin d'activer finalement la journalisation et de surveiller finalement l'usage qui est fait.
Donc d'où la présence de la personne qui s'occupe de l'audit. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a aucun changement a priori dans le code de l'application.
Ça ne change rien.
Voilà. Et puis si on a besoin de passer à l'échelle, de déployer d'autres applications supplémentaires, c'est quelque chose qui va se faire de façon assez simple.
Pour peu que on l'ait scripté dans la partie gauche de l'écran, c'est très facile. De l'autre côté, c'est à nouveau des URI à repositionner et il n'y a pas plus de difficultés.
Donc ça peut sembler un petit peu un handicap de n'avoir qu'une interface ligne de commande, PowerShell ou Azure Cli pour faire ce genre d'opération, mais en fait,
dans la pratique, c'est un avantage. C'est réellement ce dont on a besoin.
Exactement, puisqu'on a besoin d'automatiser au maximum ce genre d'opération et donc on va voir comment ça se passe concrètement. Donc,
quelques opérations. Alors, le premier point, peut-être une vérification préalable. Les commandettes ont un peu évolué par rapport aux ressources, au gestionnaire de ressources Azure. Il y a un certain nombre de versions. Il y a les pré-versions 1.0. Ouais. Il y a les versions suivantes. Donc, d'une façon générale, pour Azure KeyVault, il est demandé d'avoir une version 1.0.1+. Si on utilise le chiffrement de disque, c'est 1.2.1+. Ici, si vous prenez la dernière version, comme c'est le cas ici, on est dans une version 1.4, donc il n'y a pas de problème.
J'ai vu que la 1.5 est arrivée. Ouais.
C'est pour ça que je dis bien aujourd'hui, Pascal.
Aujourd'hui, on tourne.
On est dans une évolution en continu, donc tout change. Donc on va se connecter à notre abonnement. Donc c'est là qu'il faut et taper suffisamment vite et pas avoir les moufles, c'est ça, Pascal? Donc allons vite, allons doucement. J'essaye de me plier à l'exercice.
Là on est en mode interactif.
Voilà. Donc voilà, j'avais pas les moufles, tout va bien. J'ai plusieurs abonnements, donc on va directement se positionner sur le bon. Donc c'est fait. Donc voilà. Donc première opération, on va créer un groupe de ressources. On a dit qu'un coffre de clés se crée dans un groupe de ressources. Donc on a une commande qui nous permet de créer très naturellement un groupe de ressources, un new Azure RM ressource group.
Ça c'est quelque chose que les gens qui font du PowerShell sur Azure connaissent bien.
Donc on va le créer, on l'appelle le MVA ressource group, enfin RG. Voilà, donc on parlait d'évolution, donc il y, a, voilà, il y en a une qui est sur le point d'arriver. Et ensuite, on va créer notre coffre de clés. Donc la commande, c'est new Azure RM key vault aujourd'hui. On lui donne un nom, le vault name, le nom du, ressource, du groupe de ressources dans lequel va se trouver ce coffre de clés, l'emplacement, et derrière, effectivement, le fait qu'on est sur du software ou du hardware. Donc le premium, comme tu le mentionnais, va nous permettre de créer nos clés dans la partie HSM.
Donc là, tu prends la version HSM.
Ouais, soyons fous.
La version Gold.
Ouais. Parce que ça le vaut bien. C'est comme ça qu'on dit.
Comme on est en ARM, hein, on pourra supprimer le ressource group à la fin de la.
On va pas manquer de le faire. Donc ici, on voit l'URL, enfin l'URI de notre coffre de clés, où on part de l'abonnement, dans le ressource group que l'on a créé, traité par le fournisseur de ressources Microsoft.KeyVault, et dans les coffres de clés disponibles, on a, il s'appelle MVA-KV. Donc on retrouve stricto sensu la hiérarchie que l'on avait dans l'explorateur, c'est plutôt rassurant. Par défaut, donc on est bien sur un SKU premium, par défaut il n'est pas activé pour le déploiement, pas activé pour le déploiement de modèle ARM, pas activé pour le chiffrement de disques, et en termes de politique d'accès, j'ai une politique d'accès qui a été définie pour le créateur, moi-même en l'occurrence. Donc par rapport à mon principal de sécurité dans Azure AD.
Donc on voit que ces permissions, elles sont définies au niveau du Key Vault pour toutes les clés qui sont à l'intérieur du Key Vault.
Oui, donc permission to key ou permission to secret.
Donc to keys au pluriel, hein, ça s'appliquera à toutes les clés et tous les secrets qui seront dans le coffre.
Voilà, et pas de tag particulier. Donc ça, c'est la première opération. Donc là, à ce stade, on a un coffre de clés. Alors j'ai un petit peu scripté pour gagner du temps. Donc si on veut créer, on parlait de stocker un secret. Donc par exemple, notre super password, pass@word1, donc ça suppose de le formater d'une certaine façon, hein, au travers d'une conversion sous forme d'une chaîne sécurisée. Donc c'est fait.
D'accord.
Et ensuite, je vais stocker ce secret. Sous le nom, donc je vais donner un nom à mon secret, c'est le mot de passe SQL en l'occurrence, et je donne la valeur qui résulte de la commande précédente. Donc voilà. Et ce que je vois ici, j'ai l'URI de mon secret. Donc mon secret s'appelle bien SQL password. Et la version courante, c'est le GUID que j'ai juste après. Tu vois au passage que l'on peut donner, on peut gérer la notion de à ne pas utiliser avant. Il y a une capacité de l'activer ou de le désactiver. Donc c'est des choses, il y a une date d'expiration, donc il y a des choses, on peut jouer sur un certain nombre de propriétés, et la version courante, elle m'est donnée par... il aurait fallu que je le stocke avant, il aurait fallu que je stocke le dollar secret juste avant, je ne l'ai pas fait, donc petit glitch dans le script.
Tu le récupères.
Il aurait fallu que je fasse un dollar secret égal, mais bon... Donc ici, je crée une clé. Donc mon coffre, c'est un coffre premium. Je vais ajouter une clé. Donc en fait, je vais demander de générer une clé. Je le génère dans la partie soft, ici. Donc voilà le résultat. Donc la clé. Donc là, c'est en fait le seul moment où j'ai l'information sur la clé qui a été créée.
Donc là, tu lui as demandé de
générer une clé.
Générer une clé.
Une clé. Donc stockée dans la partie logicielle, mais protégé par une hiérarchie de clés qui aboutit en fait par une clé qui est stockée dans l'infrastructure de HSM.
D'accord.
J'ai une version et l'URL versionnée de la même façon. Autre version, c'est chargé à un PFX que j'ai dans mon petit répertoire. Donc là, j'ai le PFX en question, qui est protégé. Alors,
Mikey.pfx, c'est ça ?
Voilà, Mikey.pfx. Donc ici, on va... Donc on va faire...
Donc ton PFX est protégé par un mot de passe.
Passe qui s'appelle password, enfin le même.
Ce mot de passe, on le convertit en secure string.
Voilà, et là je demande à ajouter une clé. Donc là je ne demande pas à générer une clé, je demande à importer une clé. Et le chemin du PFX pour l'importation, bah, c'est le chemin du PFX. Je parlais tout à l'heure du bring your own key. Il y a une procédure de mise en œuvre avec le bring your own key. Et la résultante de cette procédure d'exportation qui a été constituée par Thales me donne de la même façon ici un fichier que si je faisais du bring your own key, ben je préciserais ici le résultat du. J'aurais un point bioc en fait, qui résulte de cette opération.
OK.
Donc pas plus compliqué. La destination ici par contre c'est un HSM et pour le mot de passe associé, ben j'ai le key pass. OK. Et d'un point de vue final. Ça se présente exactement de la même façon. Si je regarde les propriétés, donc GELT, donc, ben c'est un peu comme ce qui se passe quand je me demande de générer les clés dans d'autres environnements d'Azure.
Okay.
Ben ça, c'était la commande précédente, mais là, le GET, ici, me donne simplement les informations techniques d'utilisation.
Donc la My First HSM Key, c'est celle qui vient de ton PFX et
que voilà, tu c'est tout ce que j'ai affiché. Donc je m'apprête en tant qu'opérateur, je peux définir si elle est activée ou pas activée, si elle a expiré ou pas, si elle n'est pas utilisée avant telle date. Et ensuite, c'est la politique d'accès qui aura été définie en fonction des permissions qui sont données dans le cadre de cette politique qui définiront les usages.
Donc là, on parle de clé. Donc là, le vocabulaire Azure Key Vault, on parle d'une clé. En l'occurrence, c'est un certificat avec cette clé privée.
Exactement.
C'est l'ensemble.
Là, c'est l'ensemble.
Ce qu'il y avait dans le PFX.
Exactement.
On est d'accord.
Et puis là, pour voir la partie secret, d'un point de vue technique, on va retrouver une interface un peu de.
Donc le premier secret que tu as créé tout à l'heure.
Le voilà.
Qui s'appelle SQL Password.
Voilà, sauf que j'ai des opérations qui me permettront de le récupérer d'un point de vue code, mais c'est ce que l'on verra.
Voilà, là, quand tu fais le GET, tu affiches ces métadonnées en fait.
Voilà, le GET, mais. Je peux, à la différence derrière, je peux récupérer sa valeur dans des opérations, c'est ce que l'on verra, alors que de l'autre côté, j'ai aucun moyen de le faire.
D'accord.
Finalement, en termes de. Je peux jouer dans le cas précédent sur à expirer, pas expirer, est utilisable, est activé, n'est pas activé, et ensuite réaliser les opérations qui ont été conférées au principal de sécurité en fonction de ce qui a été défini dans la politique d'accès. Point barre.
OK. Donc on a bien vu, hein, avec les commandes get, add, new, etc. On a Azure Key Vault qui est le Key Vault, donc le coffre. Azure Key Vault Key qui est une clé. En l'occurrence un certificat avec sa clé privée, etc., qu'on génère là-bas ou qu'on importe depuis un PFX.
Et le secret qui est le secret.
Azure Key Vault Secret, c'est l'objet de type texte protégé.
Après, en fonction, on va retrouver les new, les get, les add, les remove, de façon très classique. Toujours la possibilité de faire un get-help avec la commande, éventuellement un -detail do full derrière pour avoir en fait tout l'usage. Ou passer, comme on l'a vu, par l'explorateur de ressources qui permet d'avoir dans la partie PowerShell quelques illustrations. Ou sinon, c'est l'objet de nos modules, Pascal.
Eh ben oui.
Donc je te propose qu'on finisse peut-être ce module avant de passer dans le scénario concret.
Donc on peut avoir des scénarios également dans nos Key Vault multilocataires, donc avec des applications dont l'objet est que les applications puissent utiliser les clés des locataires mais ne puissent pas les voir, les récupérer. Mmh. C'est un petit peu le but de ces HSM, de ces Key Vault, pardon.
Donc là, on retrouve bien la notion de séparation, avec d'un côté, pour chaque organisation, gérer ses propres clés. De l'autre côté, c'est dans l'application, simplement, la possibilité qui doit être offerte de préciser les URI.
Est-ce qu'on peut citer comme exemple, à droite, Office 365, et à gauche, nos chers clients?
Ça pourrait être ça, par rapport à la fonctionnalité de chiffrement avancé qui a été annoncée à l'automne dernier.
Et donc, chaque client locataire conserve la propriété de ses clés et la gestion des permissions sur ses clés.
Et la capacité à tout instant, comme on l'a un peu suggéré, de dire je désactive et je supprime.
Exactement, exactement.
Et ça, ce qui veut dire que de façon instantanée, on a révoqué l'accès et la capacité.
Donc il a des journaux, il a accès à ses journaux, il peut vérifier ses logs.
Voilà, juste pour revenir sur ce point, si on imagine par exemple qu'une clé stockée dans un boîtier HSM, enfin, dans l'environnement HSM du coffre de clés Azure sert à stocker, à protéger des clés de chiffrement qui sont utilisées pour chiffrer des données dans Azure, le fait de désactiver la clé, voire de la supprimer au niveau du coffre de clés, fait qu'instantanément, on a rendu inaccessibles, non consommables les données protégées.
Effectivement. Bon, tout ceci est hébergé dans Azure, donc dans des data centers Azure. Aujourd'hui, c'est GA, c'est-à-dire que c'est…
En disponibilité générale.
Ce qu'on appelait RTM avant.
Voilà. Nous change dans le vocabulaire.
Donc disponible
dans toutes les régions publiques, disponible dans un certain nombre de, pas de services et de capacités. On en verra un certain nombre dans les modules suivants.
Et puis on a un certain nombre d'applications qui utilisent ce service, donc le fameux Bring Your Own Key, dont Azure RMS.
Par exemple.
SQL Server et son chiffrement de données transparent.
Pareil pour un certain nombre d'applications.
Sur les certificats de VM.
On pense à la liste, en fait, elle est valable à un instant T, elle évolue.
Mais Cloud Link, Secure VM, ok.
Donc plutôt dans le sens de l'augmentation.
Oui, tout à fait. Bon, bah, une bonne base pour utiliser ces services. Et puis, donc, on va se retrouver sur les modules suivants, sur des scénarios concrets.
Pour entrer dans le vif du sujet.
Voilà, on va voir un petit peu de vrais scénarios. Donc, les mêmes pointeurs que tout à l'heure, que dans le module 1. On se retrouve donc juste après ça sur le module 3 avec
l'injection
le premier scénario.
De certificats dans des machines virtuelles.
Ok, à tout de suite pour le module 3.